Chers auditeurs, bonjour. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver dans nos studios pour un nouveau numéro de l'écho de ma commune, subventionné par le Conseil Général d'Eure-et-Loire. Dans les studios de Radio Grand Ciel aujourd'hui, Alain Fillon, maire de Luret, vice-président de la communauté d'agglomération pour l'eau et l'assainissement. Bonjour Alain.
Bonjour Marie-France.
Bonjour, bonjour monsieur le maire. Cette communauté d'agglomération regroupe combien de communes ?
Alors, hier, elle regroupait dans la première phase 19 communes. Nous sommes passés depuis le 1er janvier 2014 à 78 communes, correspondant à une population d'environ 112 000 habitants.
Une grande, grande ville quand même.
Oui, c'est une grande communauté d'agglomération, mais je pense que c'est nécessaire si on veut être ambitieux au niveau des projets. On ne peut aménager un territoire que s'il est suffisamment étendu et aussi avec des moyens. Et les moyens aujourd'hui d'une communauté d'agglomération sont des moyens qui sont des moyens à la fois économiques, à travers la perception hier de taxes professionnelles, mais aujourd'hui, on va dire, d'un autre type de redevances, et puis aussi des aides de l'État. Des aides de l'État, c'est en gros les deux seules recettes, puisque nous avons, depuis le départ, depuis 2003, nous avons fait en sorte de ne pas rajouter de taxes locales, d'impôts locaux, autres que ceux des communes. Donc aujourd'hui, nous avons une fiscalité propre, mais qui n'est pas basée sur de nouvelles taxes. On ne paie pas de taxes à la communauté d'agglomération. On paye des taxes d'enlèvement des ordures ménagères, on paye ce type de taxes, mais pas un impôt local. Ça, c'est une volonté unanime des élus aujourd'hui, dans un contexte où nos concitoyens ont quand même un certain nombre de difficultés financières. Je crois qu'il ne faut pas en rajouter. Dire que cela perdurera, je ne sais pas. En tout cas, compte tenu des investissements que nous avons faits depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, le fait de ne pas avoir augmenté, de ne pas avoir instauré un nouvel impôt, c'est quand même quelque chose de positif. Pourra-t-on continuer ? Je ne le sais pas, parce que comme toutes les communes de France, les communautés d'agglomération, communautés de communes, ont aujourd'hui à participer, ce qui me paraît normal, à l'effort national de redressement des comptes publics. Entre parenthèses soit dit, que je ne comprends pas pourquoi on impose, ce qui est normal, à toutes les collectivités de présenter des budgets équilibrés, comme une entreprise d'ailleurs. On n'a pas plus de dépenses que de recettes, mais toutes ces recommandations ne sont pas celles de l'État. L'État est autorisé à avoir, et depuis de nombreuses décennies, c'est pas nouveau, mais à avoir des budgets déficitaires. On arrive aujourd'hui à 2000 milliards de déficit, quasiment. Je veux dire que c'est des sommes impensables. Et donc, que l'on participe à une volonté politique de redresser les comptes de la nation, d'accord. Les communautés d'agglomération, nos communes, les 36 000 communes de France, vont participer à cet effort que je considère normal, sauf peut-être que cet effort n'est pas réparti sur une durée assez longue.
Et pourquoi ?
Aujourd'hui, les 11 milliards d'économies de prélèvements qui sont faits au titre des collectivités se fait sur 3 ans. Alors je veux bien penser qu'on peut avoir le phénomène d'urgence en disant si on ne s'attelle pas tout de suite à remettre en ordre les comptes de l'État et si on le fait trop, d'une manière trop, pardon l'expression, light, ça va durer trop longtemps. Sauf que là, il y a encore quand même pas mal d'eau à couler sous le pont avant qu'on arrive à un équilibre. Donc là, je pense qu'on aurait pu l'étaler au moins sur la durée d'un mandat. Sur la durée du mandat, parce que c'est quand même assez brutal. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'écueil soit au niveau de l'absence d'investissement, que les communes arrêtent d'investir.
Quand elles n'ont plus d'argent, elles n'en dépensent plus.
Voilà, on n'en dépense plus. Mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, 70% de la commande publique, c'est-à-dire des travaux en termes publics, sont faits par les collectivités. Donc ce serait quand même embêtant. Et derrière tout cela, en filigrane, il y a quand même l'emploi.
C'est un coup de frein sur l'économie.
C'est un coup de frein sur l'économie. Ça va aussi obliger, d'un autre côté, quand on a le couteau dans le dos, on ne peut plus reculer. Donc ça va obliger aussi à nos collectivités, et Alain Fillon le premier, à peut-être voir de plus près les économies qui peuvent être faites sur le budget. Il y a des économies qu'on peut faire sur nos budgets. On peut les faire à travers des mutualisations, à travers des comportements nouveaux, de façon à faire en sorte que l'on puisse économiser. Mais surtout, sans l'écueil non plus du service public, c'est-à-dire du service rendu au public. Je veux dire par là qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, par une restriction de personnel, parce que ça peut passer aussi par cela, que l'on ne soit plus forcément à disposition suffisamment de notre public, que la mairie, par manque de personnel, ne soit plus ouverte 4 jours sur 7, mais plus que 2 jours sur 7. Donc là, je veux dire qu'il faut être très prudent. Donc voilà, c'est un petit peu la brutalité, la rapidité avec laquelle on nous demande de faire ces économies, qui me paraissent un peu compliquées aujourd'hui, difficiles.
À partir du moment où c'est le désir de l'État de réguler ou de supprimer des subventions, qu'est-ce que tu appelles la mutualisation ?
La mutualisation, c'est le fait de pouvoir se regrouper à plusieurs communes, par exemple, pour un détail très simple, ou même avec notre communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération a entamé ce type de procédure, c'est-à-dire qu'on n'achète plus, prends un exemple très concret, on n'achète plus le papier qu'on utilise régulièrement, on n'achète plus le papier en individuel, qu'au lieu de commander 800 ramettes par an, qu'on soit regroupé et qu'on fasse une commande à 10 000 ramettes par an. Quand je dis 10 000, ça veut dire que Luré se mettrait demain avec Dreux, Vernouillet, à travers la communauté d'agglomération et d'autres communes, pour pouvoir acheter en quantité un produit inconsommable qui est utilisé par toutes les collectivités. Donc, à partir de là, on n'aurait pas évidemment les mêmes prix, ce qui est tout à fait normal, sans mettre en péril devant le fournisseur. On ne peut pas non plus saigner le fournisseur pour arriver à avoir des prix. Mais dès l'instant où les quantités sont plus importantes, on peut arriver à faire des économies.
Oui, c'est ce type d'action, en fait.
Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui la mutualisation.
Très bien. Et donc, la commune, c'est une entité qui reste quand même indépendante.
Oui.
Le maire reste maître chez lui.
Il reste maître chez lui à travers des compétences qui sont dévolues, maître avec aussi une tutelle. Le maître ne veut pas dire tous les pouvoirs, mais en tout cas, il est conféré aujourd'hui un certain nombre de compétences à nos communautés d'agglomération. D'ailleurs, dans un esprit aussi d'économie. C'est pas nouveau. Je veux dire, par exemple, qu'une commune aujourd'hui ne gère plus ses déchets, et on pourra en parler tout à l'heure, ne soit plus à même de gérer elle-même son assainissement, automatiquement, il y a un effet d'économie.
Ça n'est pas un abandon de souveraineté.
Non, c'est pas un abandon de souveraineté, c'est simplement le fait que de se regrouper sur une affaire, par exemple, comme la collecte des déchets, s'il fallait qu'une commune, comme la mienne, soit obligée demain de pratiquer la collecte, le ramassage, la transformation des déchets, etc., ça coûterait automatiquement plus cher que le fait d'être aujourd'hui en communauté d'agglomération. Donc il y a un certain nombre de compétences que l'on dit avoir été transférées, c'est pas nouveau, mais à partir de là, les communes, les élus conservent aussi un certain nombre de compétences, de pouvoirs, entre guillemets. D'ailleurs, il faut voir, on note aussi aujourd'hui, alors c'est peut-être les difficultés économiques, c'est peut-être une conséquence de ces difficultés, on voit des communes qui se regroupent. On voit des communes qui se regroupent, des petites communes qui
alors
se regroupent.
Alors que c'était plutôt dans l'air du temps de se reséparer.
Voilà, et par rapport aux propos que tu évoquais tout à l'heure, en disant, oui, mais alors vous perdez de votre souveraineté, vous ne serez plus le seul maire à décider du budget, puisque vous aurez le budget aussi d'une autre collectivité. Mais parce que les maires, un certain nombre de communes, je ne les citerai pas, mais il y en a autour de la ville de Dreux, des communes qui nous disent, moi, une fois que j'ai payé mon éclairage public, que j'ai payé mon demi-poste de secrétariat, mon demi-poste ou quart de poste d'employé communal à la voirie, etc., ne me demandez pas de faire des bordures de caniveau, d'améliorer le patrimoine communal, parce que je n'en ai pas les moyens. Même si je bénéficie de subventions, la charge restant est beaucoup trop importante, n'est pas compatible avec le montant de mon budget. Et aujourd'hui, on le voit, c'est pas nouveau. On le voit assez souvent, des communes ont pris la décision de se regrouper. Alors, avec un certain nombre de précautions, il y a bien sûr y investir la population, ça va de soi, hein. Il faut aussi demander aux populations, mais en tout cas, c'est pour des raisons tout simplement de dire on va pouvoir faire quelque chose. Sinon, si on est maire aujourd'hui ou élu simplement pour l'écharpe et dire je fais de temps en temps un mariage, je fais de temps en temps une inauguration chrysanthème, etc., ou je vais au repas des anciens, c'est pas ça la fonction élective. La fonction élective, c'est au fond d'être à la disposition de nos concitoyens pour apporter un petit peu plus de bonheur à travers un environnement, à travers des formes de vie, etc. Et pour ça, il faut des moyens. Et les moyens financiers, si on est trop petit, on ne peut pas les mettre en œuvre.
Je me souviens de la mairie qui avait son propre garde champêtre. Bon, bah ça, on va le partager maintenant. Hein,
voilà, on va le partager, ou la police municipale, etc. Aujourd'hui, par exemple, c'est une réflexion dans ma commune. Une police municipale, on n'a pas les moyens de le faire, mais peut-être pourrait-on le faire. Ça existe en France. Pourrait-on regrouper cette compétence-là sur plusieurs communes? Dire qu'on pourrait avoir un poste de fonctionnaire, de policier municipal, qui soit réparti sur deux ou trois communes, ce serait compatible avec le budget, parce qu'on a aussi besoin de police municipale.
Et là, actuellement, la police municipale, quelle est la police municipale qui intervient sur ta commune ?
C'est pas une police municipale, on dépend directement d'une police d'État, c'est le commissariat de police, puisque c'était à l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il nous avait proposé, avec la commune de Saint-Gemme-Moronval et de Chorizy, d'inverser la responsabilité de police. Saint-Gemme-Moronval et Luret étaient en zone gendarmerie, et la commune de Chorizy en zone police. Pourquoi Chorizy était en zone police? Tout simplement parce que c'est un peu excentré de Dreux, Dreux-Vernouillet étant bien sûr en zone police, dépendant du commissariat de Dreux, tout simplement parce qu'il y avait à l'époque la Nationale 12 qui traversait la commune de Chorizy. Ça remonte à quelques décennies. Mais ceci étant, c'est pour ça qu'il y avait que Chorizy est en zone police. Et on nous a demandé que Luret et Saint-Gemme, qui ont des frontières directes avec Dreux et Vernouillet, que ces deux communes-là passent en zone police et que Chorizy soit en zone gendarmerie. Ça ne faisait pas de problème parce que Saint-Gemme plus Luret faisait la même population que Chorizy. Et donc aujourd'hui, nous dépendons directement de la police nationale. Luret n'a pas de policier municipal. Mais c'est vrai qu'on pourrait, parce qu'il n'y a plus de garde champêtre, on pourrait, pour des affaires de circulation, de sortie des écoles, enfin un certain nombre de compétences, de missions qui sont dévolues à la police municipale, on pourrait effectivement envisager ce type d'emploi.
Et pour tout ce qui concerne la culture, tu parlais tout à l'heure de réparation sur des bâtiments publics, sur des lavoirs des églises, des choses qui sont obligatoirement quelquefois endommagées, et qui paye ?
Dans ce cas-là, c'est aujourd'hui l'entretien des bâtiments communaux, des voiries, c'est la commune qui paye, bien évidemment, hein, c'est son patrimoine. C'est son patrimoine, et nous sommes aussi aidés. Nous sommes aidés par des collectivités, des instances comme le département, la région, en fonction des compétences de chacune de ces collectivités. Hein. Le département, aujourd'hui, a un certain nombre de compétences, la région en a d'autres. Ça va être brassé un petit peu, ça. On va attendre que les élections régionales soient passées. Je pense qu'à partir de 2016, on redéfinit les compétences des régions et des départements. Il va y avoir un peu de bouleversement. Je pense en particulier aux routes, je pense aux collèges. Les collèges qui, hier, étaient plutôt compétences du département, est-ce que c'est une compétence qui ne va pas passer à la région, qui gère déjà les lycées? Pour ce qui est des routes, c'est un petit peu la même chose. Donc en tout cas, il y a une mouvance à ce niveau-là. Mais il faut savoir que les travaux que nous organisons dans nos communes, il y a une part à la charge de la commune, mais nous avons des aides financières. Région, département, en particulier.
Et ça, ces aides financières ne vont pas changer. C'est pas parce que la région centre va être plus grande, ou je ne sais pas, elle reste peut-être la même d'ailleurs, mais ça va peut-être changer aussi avec les nouvelles régions.
Pour les régions, peut-être que ça changera. Ça changera, à mon avis, pas en fonction par rapport au territoire, ça changera par rapport aux moyens financiers que peuvent aujourd'hui
ça va être plus important.
Développer. Ça va être plus important. Et puis aussi, les aides d'État au niveau de la région sont aussi en diminution. Par exemple, pour le département, c'est clair. Pour le département d'Eure-et-Loire, par exemple, les aides, le règlement des aides qui existe depuis un certain nombre de temps, au profit des communes rurales, est en cours de réécriture. Donc d'ici la fin décembre...
Réécriture veut dire baisse.
Probablement, dans le sens de la baisse. Ça, je pense qu'on peut, le dire sans lire dans le marc de café. On peut le dire parce que, pour des raisons financières. D'ailleurs, au même titre que le département, par exemple, cette année ne va pas voter son budget comme il le faisait tout le temps. Au mois de décembre, pour l'année suivante, pour l'année N+1, ils vont attendre le mois de mars de voir exactement quelles vont être les compétences nouvelles, supprimées ou nouvelles, de façon à pouvoir monter un budget qui ne sera pas voté avant le mois de mars, qui va avoir comme conséquence de mettre un peu dans l'expectative nos communes, qui elles aussi votent leur budget au mois de mars et qui vont se poser la question, comme le département peut se poser la question, comment l'État va m'aider. Les communes, là, au premier trimestre 2016, vont se poser la question. Bien qu'on peut, on a des projections, on peut savoir quelle sera l'amputation pour nos budgets sur, pour l'année 2016, mais va se poser aussi la question, et ceux qui me finançaient habituellement, avec un certain taux de participation financière notamment, est-ce que ces collectivités, départements, régions, vont continuer ? Pour le département, on va être fixé dans le premier trimestre 2016, mais il faudra voter peut-être nos budgets avant.
Et à ce moment-là, il faut peut-être retarder aussi le vote de votre budget.
Nous, on ne peut pas le retarder, le vote du budget, Marie-France, parce qu'il y a une règle générale, c'est que le budget d'une année N, 2016, doit être voté pour nos communes avant le 31 mars de l'année N. Alors, il y a quelques entorses hein, à la date. Par exemple, quand on est dans une période d'élection, par exemple, en 2014, il y a eu au mois de mars des élections municipales, communales. Il fallait bien qu'on était dans des élections, des équipes nouvelles arrivaient en place, et donc, on avait le 31 mars comme délai, comme date butoir. Donc dans ces cas-là, on reporte un petit peu la date butoir et bien souvent 15 avril, voire fin avril, c'est arrivé dans quelques
cas. Il y a des arrangements possibles. Donc.
Il y a des arrangements, mais ce sont des arrangements législatifs.
Alors maintenant, vice-président de la communauté d'agglomération, ça consiste en quoi ?
Le vice-président d'une communauté de l'agglomération, comme tout vice-président, il est là pour épauler,
aider
le président, pour épauler. Et surtout, c'est en fin de compte le fait d'avoir en responsabilité des secteurs de la collectivité. Notre communauté d'agglomération a des vice-présidents, ça a un premier vice-président qui, lui, est censé vraiment épauler et remplacer le président lorsqu'il est indisponible. Et aussi, chaque vice-président président a en responsabilité un domaine de compétences. Alors, dans notre communauté d'agglomération, il y a le domaine économique, il y a le domaine culturel, il y a les transports, il y a les déchets, et il y a l'eau et l'assainissement. C'est une compétence que le président avait souhaité qu'en tant qu'élu, j'assume. J'avais dans la précédente communauté d'agglomération à gérer à la fois tout ce qui était environnement, c'est-à-dire qui regroupait les déchets, l'eau et l'assainissement. On était à 19 communes, on est passé à 78 communes, c'était plus possible. Ça faisait l'État dans l'État. Donc notre président Gérard Hamel avait souhaité que l'on sépare, sépare un petit peu un certain nombre de secteurs qui devenaient beaucoup trop importants. Donc les déchets ont été donnés à un autre vice-président. Donc aujourd'hui, moi j'ai plutôt en gestion tout ce qui est eau, assainissement, la production de l'eau. Uniquement la production, la communauté d'agglomération n'a pas la compétence de la distribution. La compétence production, c'est à un moment donné, je prends l'eau en souterrain. Pour nous, pour notre agglomération, il n'y a pas d'eau de surface.
On ne prend pas
l'eau des rivières. On la prend en particulier à Vernouillet, puisque les 6 points de captage de Vernouillet, le long de la rocade, à droite de la rocade, ceux qui connaissent bien, c'est à hauteur du chemin de la Messe. Voilà, on va le dire comme ça. Et les 6 points de captage, 3 qui sont plutôt qui étaient plutôt côté Vernouillet et 3 plutôt côté Dreux, produisent l'eau pour un grand nombre de communes de notre agglomération. Mais il y a d'autres points de captage.
Un point de captage va dans la nappe phréatique.
Voilà, nous captons uniquement sur nappe phréatique. Nous ne captons pas, comme ça existe ailleurs sur le territoire national, nous ne transformons pas l'eau de rivière, etc., en eau potable. Nous, c'est uniquement au niveau de la nappe.
C'est plus sécurisant ?
Normalement, c'est plus sécurisant, c'est plus protégé. Il y a des moyens aussi, on va dire, de rendre un peu plus propre, parce que même étant protégé, selon les secteurs, les endroits du territoire, et en particulier de notre agglomération, par exemple, si on prend l'exemple de l'agglomération et des captages de Vernouillet et Dreux, on s'aperçoit qu'on a parfois des taux de nitrate qui sont au-delà de la norme européenne, c'est-à-dire des 50 mg par litre. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, nous avions construit, et ça a été une bonne orientation, l'usine de dénitrification qui se situe d'ailleurs dans le secteur des captages, au pied des captages, et qui traite des nitrates, qui ramène le taux de nitrate à aujourd'hui 20-25 mg. En moyenne, ça oscille un petit peu, c'est fluctuant sur un mois ou des choses comme ça, mais qui, on l'oublie aussi, traite également les pesticides.
Tout ça venant de l'agriculture, j'imagine.
Oui, là, moi, je ne voudrais pas rentrer dans un procès, je suis très prudent, venant de l'agriculture, mais pas uniquement de l'agriculture. Les collectivités locales répandent des pesticides. De moins en moins, parce qu'on a mis en place des, campagnes. Aujourd'hui, on a une campagne qui s'appelle « Zéro pesticide ». C'est-à-dire que lorsque j'ai à traiter sur ma commune, est-ce que j'ai pas des possibilités alternatives? C'est-à-dire, revenons au bon désherbage.
Les abeilles vous diront merci.
Voilà. Revenons au désherbage. En tout cas, évitons d'utiliser tous ces produits, assez nocifs. Donc, il n'y a pas que l'agriculture. Et puis, même si...
Il faut mettre des coccinelles dans nos rosiers.
Oui, aussi. Même si l'agriculture est regardée comme étant une possibilité d'apport de nitrates, je crois qu'aujourd'hui, moi, je le vois à travers les travaux que nous faisons dans notre commission assainissement, et en particulier dans le cadre de la protection des nappes. On rencontre aujourd'hui bon nombre d'agriculteurs qui disent « Non, mais moi, je suis le premier, je suis OK. » On a peut-être à une époque d'autres générations d'agriculteurs, ont peut-être à une époque mis un peu trop de produits concentrés, etc. On ne va pas faire le procès de l'agriculture aujourd'hui. Moi, je ne m'inscris pas dans cette ligne-là. Quand bien même qu'hier ou avant-hier même, un certain nombre d'agriculteurs aient mis des produits en trop grande quantité, la situation est passée. Ces gens-là ne sont plus de notre terre.
Ils ont fait à l'époque ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils
avaient. Ils ont fait à l'époque parce qu'on leur demandait de produire beaucoup. Il fallait nourrir la population mondiale, etc. Aujourd'hui, on dit on peut faire autrement. Les moyens, on l'a évoqué tout à l'heure au début sur l'évolution du monde agricole et de la pratique, des pratiques agricoles. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'informatique, du numérique. On ne traite plus la même parcelle de terre à l'entrée et à la sortie. On la traite en fonction de sa composition à l'instant T. On moissonne d'une certaine manière. Je veux dire que le monde agricole, les pratiques agricoles ont énormément changé. Et aujourd'hui, et aussi notamment pour des raisons économiques, les agriculteurs sont les premiers à dire « Mais moi, dans mon équilibre budgétaire d'exploitation, il faut que j'utilise le moins possible de produits qui sont coûteux. » Donc je veux dire qu'il y a une prise de conscience, pas par tout le monde, j'en suis bien convaincu, mais ne jetons pas le discrédit quand même brutalement sur le monde agricole. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté aujourd'hui pour faire en sorte que nous puissions laisser, entre autres, à travers nos nappes et à travers l'eau potable, un monde meilleur pour les générations qui vont venir.
Les nappes phréatiques sont tout à fait satisfaisantes, il n'y a pas de problème.
Aujourd'hui, les nappes phréatiques, aussi bien sur le plan quantitatif, tout au moins pour notre région, pour notre secteur, ne sont pas en difficulté. Bon, c'est là aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est fluctuant en fonction des conditions climatiques. Et ça se gère.
Et l'assainissement, donc ?
Alors, l'assainissement, c'est un gros dossier. L'assainissement, c'est un gros dossier puisque nous avons entamé, il y a 3 ans, nous avons entamé sur notre agglomération un très large projet de maillage de nos réseaux d'assainissement. C'est 38 millions d'euros. 38 millions d'euros, ce n'est pas 38 millions de francs, bien évidemment. Donc, ce sont des travaux qui sont très conséquents. En particulier, nous avons terminé une première phase qui est toute la phase du plateau sud, ce que j'appelle le plateau sud. C'est en s'en allant sur Chartres, Marville, Boulay-Mivoy, Boulay-Thierry, la vallée de l'Eure, Charpon, etc. Nous sommes aujourd'hui sur la vallée de la Blaise, c'est-à-dire de Saunières à revenir jusqu'à Garnay. Nous faisons, et ça passe pas inaperçu, je pense, pour nos concitoyens, beaucoup de travaux d'assainissement sur la ville de Dreux-Mem et la ville de Vernouillet. On a refait tout l'assainissement du quartier des Rochelles. Aujourd'hui, on est sur le quartier Saint-Ève. C'est quand même énorme. C'est 1200 branchements. Nous sommes aussi dans des secteurs plus restreints, l'avenue Marceau par exemple, qui d'ailleurs c'est un chantier qui se termine avec les conditions climatiques qui ont été favorables. Nous avons gagné 15 jours, c'était pas évident parce que il y a sur la ville de Dreux beaucoup de travaux aujourd'hui, hein. Je suis pas venu pour parler des travaux de la ville de Dreux, mais néanmoins ça a des conséquences. Le Guéosane, hein, sur la jonction vers la route de Paris, les travaux du pont Saint-Denis, on renvoie des voitures sur l'avenue Marceau, mais nous sommes en assainissement. Je veux dire que c'est aussi la preuve, ça entraîne quelques dysfonctionnements et des contraintes pour nous tous qui prenons la voiture, mais en fait ces contraintes ne sont pas insurmontables, mais c'est la preuve aussi que nous avons une agglomération des communes qui continuent à investir. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Donc l'assainissement, c'est un secteur très important. C'est quelque chose aujourd'hui, parce que je répète, je l'ai dit, la protection de l'environnement. Protégeons nos nappes, évitons tous ces flux d'eau parasites dans à la fois nos nappes et puis aussi les secteurs du sol. Et ça a une conséquence, malheureusement, c'est que dans cette affaire-là, l'usager va avoir aussi à payer, à engager des dépenses à un moment où les budgets familiaux sont difficiles à équilibrer. Alors d'un côté, doit-on mettre en avant la protection de notre environnement, ou de l'autre côté, dire non, on ne fait rien, on laisse faire, on continue comme ça. Il faut savoir par exemple que notre station d'épuration, on a une station d'épuration qui se situe sur la zone des Châtelets, c'est aujourd'hui une station qui a un équivalent de 80 000 habitants, c'est-à-dire qu'on peut fonctionner pour 80 000 habitants. Ça ne veut pas dire que c'est 80 000 habitants, parce que dedans il y a des entreprises, donc ça pourrait aller même un peu au-delà. Et à l'époque, c'est bien que les élus aient eu cette lucidité de faire une station que certains ont décrié comme étant surdimensionnée, mais qui aujourd'hui, dans un contexte de communauté, permettent de rattacher des communes comme Charpon, Boulay-Thierry, Boulay-Mivoix, Tréhon, Garnet, etc.
C'était plutôt visionnaire.
Je pense que c'était visionnaire. Alors c'était des investissements au départ, des investissements qui n'ont pas été utilisés à plein rendement, mais aujourd'hui on a même encore de la capacité. Il faut savoir que notre station d'épuration, lorsqu'il y a des pluies importantes, eh bien est dans une situation de surcharge. Elle est dans une situation de surcharge parce qu'on a ces eaux de pluie qui ne doivent pas... On traite, elles arrivent à la station d'épuration parce qu'elles sont collectées alors qu'elles ne devraient pas être collectées dans les réseaux d'assainissement. Elles sont collectées parce qu'il y a des dysfonctionnements et ça met simplement en péril le fonctionnement de la station d'épuration et donc ça met en péril, en fin de compte, le fait de traiter correctement l'eau. C'est quand même dommage que des eaux de pluie qui, par définition, sont des eaux qui ne sont pas chargées en produits trop toxiques, indépendamment des eaux de ruissellement de voirie, bien sûr, mais c'est dommage de traiter une eau qui déjà, par principe, les eaux de pluie, on le sait bien, ont un degré de pureté qui est assez intéressant. Hein. Donc voilà.
On va tous mettre des bassins pour recueillir l'eau de pluie.
Ah mais Marie-France, toi qui connais bien le milieu rural, tu sais très bien qu'il y a un certain nombre d'années, nos ancêtres, d'ailleurs, ont dû vivre des périodes difficiles d'alimentation en eau, peut-être pas forcément pour eux, mais surtout pour quelque chose qui était primordial dans leur système d'organisation de vie, c'était pour leur bétail. On a commencé par cela tout à l'heure, par les moutons. Quand on n'avait pas d'eau pour le bétail, c'était catastrophique. Pour eux aussi, bien sûr, mais ils n'en arrivaient pas là. Et donc, avaient mis en place des réserves d'eau. Des réserves d'eau qui, parfois, sont de très jolies installations et qui méritent d'être visitées. Moi, j'en ai un certain nombre dans ma commune et c'est vraiment quelque chose. Ça prouve qu'ils ont eu, à un moment donné, des difficultés en approvisionnement.
Chez mes grands-parents, il y avait ce qu'on appelait une tonne. C'était un espèce de grand bidon énorme qu'on emmenait derrière un cheval ou derrière un tracteur pour aller mettre de l'eau dans les champs là où il y avait des bêtes.
Tout à fait.
Je me souviens très très bien. Non, c'est vrai que c'était le problème, bien
voilà.
sûr.
Aujourd'hui, dans la plupart, beaucoup de maisons dans mon village, là, en cœur de village, on appelle ça des citernes. Alors parfois, elles sont construites avec pas forcément beaucoup de réflexion. On met ça sous la maison. La citerne était sous la maison. Ce qui a parfois posé un certain nombre de difficultés avec les difficultés du temps. Mais toujours est-il, il y a des citernes qui sont superbes, vraiment de très belles citernes carrelées avec des voûtes, etc. Et c'était pour récupérer l'eau.
Ah oui, moi je pensais simplement à un tonneau.
Ah non,
sous
non, non,
boutière,
ce sont des citernes qui sont enterrées. D'ailleurs, on y revient aujourd'hui. Et c'est parce que là aussi, pour des raisons financières économiques, quand on paye un prix du mètre cube d'eau, 5 euros, assaini, hein. L'eau tirée au robinet et l'eau renvoyée dans tout à l'égout. 5 euros le mètre cube pour celui qui lave sa voiture, qui a un potager, qui arrose ses fleurs, etc. Ça ne coûte pas grand-chose de mettre une citerne ou de mettre, au moment où on construit la maison, de prévoir quelque chose, d'enterrer quelque chose, parce que c'est des économies, pas sur un mois, pas sur une année, mais sur une dizaine d'années, ça représente des sommes.
Et c'est moins cher que de creuser un puits.
Qui sont d'ailleurs très contrôlés, les puits.
Ah bon ?
Très contrôlés.
On ne peut pas mettre un puits comme ça ?
On ne peut pas mettre un puits comme ça. On ne peut surtout pas utiliser l'eau du puits de n'importe quelle manière.
Pour arroser ?
Il faut, pour arroser ou pour même... Il y a aujourd'hui des gens qui utilisent l'eau des puits pour, par exemple, le sanitaire. Bon, ce qui n'est pas aberrant hein, pour le sanitaire, sauf qu'il renvoie ces eaux-là dans un système d'assainissement, dans un réseau collectif. Donc, il faut être sûr que l'eau qui sert au sanitaire ne soit pas une eau qui, au départ, soit polluée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez facile d'ouvrir un puits. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de contrôler régulièrement au fait que cette eau soit de qualité. Et les contrôles, ça a un coût.
Alain, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un tour complet de la situation. Merci infiniment d'être venu et j'ai été très heureuse de te recevoir, bien sûr. C'est très intéressant. Merci à Pierre Ricard d'avoir assuré cette technique. Émilie Glory montra cette émission. Merci Alain d'être venu dans nos studios. On se reverra bientôt, j'espère.
Je l'espère aussi.
En tout cas, pour les vœux du maire, je serai là.
Très bien, ce sera avec plaisir. Et merci aussi à toute l'équipe de Radio Grand Ciel de me donner l'occasion de venir passer un moment avec vous et de traduire pour tous vos auditeurs un certain nombre de facettes de notre vie d'élu avec ses complications, mais aussi avec ses satisfactions.
Et ses joies. Au revoir, chers auditeurs. À bientôt sur Radio Grand Ciel.